Reportage, débat, interview, le magazine du samedi, le rendez-vous hebdomadaire de la rédaction de Cocktail FM, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine de la rédaction où nous parlerons d'architecture haut de gamme, high-tech, des bâtiments basse consommation. Vous dites sans doute qu'il s'agit de délire d'architecte réservé à quelques clients fortunés. Eh bien, pas du tout, puisque dans ce domaine, le logement social a une réelle longueur d'avance sur le privé. Il faut dire qu'à partir de 2012, tous les projets d'habitat devront être réglés sur la fameuse norme BBC initiée lors du Grenelle de l'environnement. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un bâtiment BBC ? Et pour avoir une réponse, on fait un petit bond en arrière dans le temps. Tout a commencé en février 2010 et à cette époque, c'était le temps du salon Planète Énergie d'Épinal où le journaliste scientifique Michel Chevalet venait présenter sa maison à basse consommation d'énergie, un bâtiment BBC accessible à tous. Michel Chevalet était passé par les arts et métiers avant d'embrasser la carrière de journaliste scientifique. Rencontre avec ce génie de la vulgarisation à Épinal en 2010. Michel Chevalet, vous n'êtes pas devenu promoteur immobilier?
Mais non, alors tous mes confrères journalistes disent ça y est, Chevalet il fait plus de la télé, il vend des maisons. Mais non, je vends pas des maisons. Je continue à faire mon métier de journaliste de vulgarisateur. Je vous ai expliqué, Ariane, la navette, comment ça marche. Bon, et bien là, je vous explique une maison BBC, comment ça marche.
Comment ça marche?
Ben voilà, j'ai fait la démonstration qu'avec les matériaux qu'on trouve dans le commerce, avec les techniques d'aujourd'hui, on peut faire aujourd'hui une maison qui correspond aux normes de 2012. Parce que le but, c'est ça. En 2012, les maisons neuves devront être à basse consommation d'énergie, c'est-à-dire pas plus de 50 kWh par mètre carré par an. Ça veut dire que cette maison qui fait 80 mètres carrés, qui est belle, qui est agréable, qui est lumineuse, elle est parfaitement isolée, elle est étanche à l'air, c'est ça qui est très important. Pour la chauffer, je n'ai besoin chaque jour que d'un litre de fuel ou un mètre cube de gaz. Voilà ce que c'est que la norme BBC.
Comment obtient-on un tel résultat avec des matériaux qu'on trouve sur le marché? C'était aussi le défi que vous avez relevé.
Oui, attendez, c'est notre rôle de journaliste. Notre rôle de journaliste, c'est de donner les clés pour comprendre. Ce n'est pas de dire aux gens, voilà, moi je ne dis pas, la maison BBC, c'est cela. Non, moi j'ai fait, à la demande de Jean-Louis Borloo, un outil de vulgarisation. C'est-à-dire, il m'a demandé, conçois-moi, pour le grand public, une maison qui corresponde aux normes BBC. Donc, j'ai fait les petites études d'ingénieur, j'ai construit un constructeur, ça a été difficile, constructeur français, encore plus difficile, sérieux, encore plus difficile, hein, j'ai le courage de mes opinions, et puis je l'ai meublé, elle est habitable. J'ai mis des démonstrations à ma manière, comme je fais à la télé, avec des maquettes, un côté ludique, attractif, et il fallait la concevoir sous forme de 3 modules, parce que je la transporte là où est le public. Je vous donne 2 exemples, par exemple, elle a été entre Noël et le jour de l'an, elle a été sur un parking de supermarché. Parce que le public est là. Cet été, elle va être sur les parkings d'autoroute pour les départs en vacances. J'ai le label « Comment ça marche ?» Je vous signale, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Laurent Gérard. On a fait ça avec Laurent Gérard à l'issue d'une soirée bien arrosée, vous voyez, avec Chevalier d'Aspalès. Donc là, c'est la BBC « Comment ça marche ?» C'est-à-dire, je veux, c'est que quand les gens quittent cette maison, ils vont comprendre ce qu'ils voient. En France, c'est « Je regarde et je comprends ». Aux États-Unis, c'est « Je touche et je comprends ». Eh bien, dans cette maison, vous pouvez tripoter, vous toucher, comprendre.
Est-ce que vous nous faites le tour de la maison, la visite, voilà, avec quelques explications?
Alors, par exemple, on va prendre 2 exemples. Là, on est dans la salle de bain. Alors, la salle de bain, il n'y a rien de particulier, c'est une salle de bain tout à fait classique. Hein. Cette maison, à la limite, vous pouvez, si je vous donne les clés, il y a le lit, il y a la cuisine, il y a la salle de bain. Il suffirait de brancher l'eau et le gaz, mais je n'ai pas le droit pour des raisons de sécurité. Alors, on fait les pupitres. Regardez. Par exemple, on va leur dire, je me lave les dents, je laisse couler le robinet. Combien je gaspille d'eau? Alors si vous appuyez sur 100 litres, ben, ça s'allume faux. Mais si vous appuyez sur 10 mètres cubes, c'est vrai. Et regardez, le verre à dents s'allume et on l'entend. Alors le mieux, évidemment, c'est la chasse d'eau, double flux. Vous économisez combien? Vous économisez avec une chasse double flux. Donc c'est une vraie chasse d'eau. Ben, on économise 10 mètres cubes par an. Donc c'est vrai. Évidemment. Alors je vous signale, ça amuse les enfants, ça amuse les adultes. Il n'y a pas de journaliste ici, ça a beaucoup amusé certains ministres. Vous savez que les maisons devront être super isolées. Cette maison est super isolée, la preuve, il fait moins 2, moins 3 dehors, il n'y a pas de chauffage. Elle n'est pas chauffée cette maison. Je n'ai pas le droit de de me relier au gaz. Et puis l'électricité étant anti-écolo, j'utilise l'électricité que pour l'éclairage et mes vidéos. Elle n'est pas chauffée, mais comme elle est parfaitement isolée, avec 25 cm d'épaisseur, je vais vous montrer la coupe d'un mur, vous voyez que là, nous, un être humain, nous dégageons 100 watts. Donc multiplié par, s'il y a plus de 10 personnes, bah 100 watts par 10, c'est déjà 1 kW. S'il y a 20 personnes, j'ai 2 kW. Bah 2 kW bien isolés, et ça me suffit. Le meilleur des isolants, c'est le vide. On ne peut pas vivre dans le vide, donc c'est un gaz. Le gaz le moins cher, c'est l'air. Mais je ne vais pas faire une maison avec des cloisons en air. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser des matériaux qui piègent l'air. Donc tous les matériaux qui sont dans des fibres ou dans des alvéoles, qui piègent l'air sec et immobile, sont de très bons isolants. Et je fais, il y a une maquette qui montre, 1 cm de lame d'air a le même pouvoir isolant que 2 de laine de roche, que 5 de bois sec. Attention, ça se gâte, 35 de parpaing et 62 de béton. Conclusion, le béton, de par sa structure, n'est pas un bon isolant. Mais je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas l'utiliser. Il faut utiliser le béton pour ses qualités de résistance, de mise en œuvre rapide, mais il faut, à côté, mettre contre une paroi isolante. Il a une très grande inertie thermique, mais il faut le doubler par l'extérieur dans une maison. Donc c'est pour ça que j'ai fait une maquette. J'aime bien les belles technologies, mais elle n'est pas révolutionnaire, ma maison, surtout pas. En double couche, c'est classique. J'ai du permacel pour éviter, disons, le revêtement qu'on appelle le placoplâtre. Derrière, j'ai 5 cm de laine de verre. J'ai un pare-vapeur pour éviter de l'humidité, surtout pas d'humidité dans l'isolant. Puis après, j'ai 20 cm de laine de chambre, ou de roche, que je faisais. Puis après, j'ai un pare-pluie vers l'extérieur. Après, j'ai 2 cm de circulation d'air. Vous voyez toujours l'air immobile et sec. Et puis, il y a un parement extérieur. Donc, ça peut être du bois peint. Mais là, on a utilisé le châtaignier parce que c'est beau. C'est un très, très beau bois. Et puis, vous voyez que cette maison, elle a un an. Le bois n'est pas du tout... Il n'y a pas de l'azur, il n'y a rien. Il est brut et elle vieillit bien. Cette maison est étanche. Mais il faut renouveler l'air 6 à 8 fois par heure pour la vapeur d'eau. Donc il y a une ventilation. Et cette ventilation, bah, si j'ai une maison que je chauffe et je rejette de l'air chaud à l'extérieur, c'est un gâchis. Donc je vais récupérer les calories sur l'air que j'extrais. Donc on utilise une ventilation, vous voyez, c'est pas plus grand que ça. Elle est opérationnelle, elle fonctionne, elle est fixée au plafond. Mais j'ai laissé apparente les canalisations avec des flèches. Il n'y a qu'à suivre. Il n'y a qu'à lire, vous voyez, j'aspire l'air frais à l'extérieur, les flèches bleues, regardez, hop, ça se promène, ça rentre ici, ça vient croiser le flux de l'air aspiré dans la maison, c'est-à-dire les water, la salle de bain, la cuisine essentiellement, les flux se croisent ici au niveau de l'échangeur, je récupère 85% des calories et je rejette l'air à l'extérieur, vous voyez, il y a des flux croisés. Il y a des panneaux solaires en coupe. Là, les gens voient ce que c'est qu'un panneau solaire, un capteur thermique. Ça doit être une boîte étanche, parfaitement isolée. Il y a une chaudière à gaz à condensation. Ils voient comment elle est installée. Voilà, vous voyez, tout ici, quand les gens se ressortent de cette maison, ils doivent dire, je ne veux pas telle ou telle marque. Pas du tout, vous voyez, il n'y a aucune marque. Mais ils disent, voilà, j'ai bien compris. C'est ça que je veux utiliser, c'est ça que je veux.
Et l'infatigable Michel Chevalet a remis ça, puisque désormais c'est une maison BBC nouvelle génération qu'il a présentée il y a quelques semaines sur les quais d'Épinal. Cette fois, il ne s'agit plus d'une maison passive, mais d'une maison à énergie positive. Elle produit plus qu'elle ne consomme, mais c'est une autre histoire. En attendant, tous les principes que nous venons d'évoquer, vous allez les retrouver appliqués dans l'habitat social. En somme, le HLM BBC à suivre.
It breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story, obviously. There'll never be. Never know, I won't never show what I feel, what I need from you, no. And you will never know, I won't never show what I feel, what I need from you. With every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? What I feel, what I need from you, no. And you will never know, I will never show. What I feel, what I need from you, no, no. You will never know, I will never show. What I need from you, no, 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 you'll never know, no, 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 you'll never know, no, no, no. Love me, love me, love me, love me, no.
Magazine du samedi sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Nous sommes à la fin du mois de mai dans le quartier populaire jérômois du Bergon, au pied d'un immeuble plutôt curieux et encore inhabité. Un immeuble somme toute assez élégant, avec sa façade tout en bois et surtout ses étranges panneaux qui reflètent la lumière. Rencontre avec Jean-François Marchal, le président de Vogelis, autrement dit l'ancien office HLM des Vosges.
Nous sommes dans ce que l'on fait aujourd'hui, sans doute de mieux en matière de bâtiment, dans les conditions effectivement de prix que l'on se fixe, hein, bien entendu. Il s'agit là de logements HLM. On découvre là un bâtiment qui réunit un certain nombre effectivement de recettes qui font effectivement qu'on a là aujourd'hui un bâtiment basse consommation. Alors, basse consommation, précisons ce que c'est en termes de consommation, hein. C'est-à-dire que là, vous avez des bâtiments en face, hein. Nous sommes au Bergon, ce sont des bâtiments qui ne sont pas dans leur état primaire, puisqu'ils ont déjà été, isolés. Bah, écoutez, dans ces bâtiments-là, on doit consommer aujourd'hui entre 180 et 200 kilowatts d'énergie primaire par mètre carré par an. Et là où nous sommes, on doit être, on pourra demander tout à l'heure les précisions à François Lozacker, on doit être entre 48 ou 52. Oui, c'est-à-dire qu'on est quasiment 4 fois moins en consommation d'énergie que dans les bâtiments en face.
Alors 4 fois moins d'énergie, est-ce que ça veut dire 4 fois moins de confort ?
Alors je crois effectivement que, et c'est l'art, je dirais, de l'architecte en la matière, c'est-à-dire que la prescription du maître d'ouvrage que l'on est, c'est de fixer effectivement des performances. Après, c'est à l'architecte effectivement de composer avec ces indications de performance. Et je crois que, pour me référer à l'opération que nous visitons ici, vous avez pu vous voir, nous avons des logements traversants, c'est-à-dire qui sont éclairés à la fois par l'est et à la fois par l'ouest ici, hein. Le système de coursives a permis effectivement de les ouvrir sur ces deux façades. En même temps, effectivement, que nous atteignons de bonnes performances en matière de consommation d'énergie et de production de CO2, les deux vont ensemble. Je crois qu'on en fournit là des logements de qualité dans de bonnes conditions d'habitabilité.
Qu'est-ce qui a poussé Vogelis, qui est à ma connaissance un des précurseurs, on va dire, dans ce domaine justement de de nouveaux bâtiments basse consommation. Comment s'est initiée la démarche donc dans l'ex-OPAC des Vosges?
Je crois que les choses peuvent paraître, je dirais, un peu plus évidentes aujourd'hui, où je dirais que le public, la citoyenneté dans notre pays est assez effectivement sensibilisée à ces problèmes d'économie d'énergie et de production de CO2. Le Grenelle de l'environnement et tout ce qui a suivi effectivement était là pour les sensibiliser. Nous sommes dans une démarche d'économie d'énergie depuis 1980, c'est-à-dire après le deuxième choc pétrolier qui a été pour nous... Effectivement, je dirais pas une révélation, mais nous avons fait effectivement le constat que l'énergie coûtait cher. Elle coûtait cher en particulier là où elle est payée par nos locataires. Et je me réfère encore aux bâtiments qui nous entourent. Ça, ce sont des réhabilitations que nous avons dû faire en 84-85. Donc depuis 84-85, on va dire depuis 82, nous avons nous le souci d'économiser l'énergie et consécutivement d'alléger les charges de nos locataires. Au-delà effectivement d'une sensibilisation que nous éprouvons comme n'importe quel citoyen aujourd'hui dans notre pays, nous avons effectivement un point de vue très économique sur le problème de l'énergie.
C'est finalement la logique d'un bailleur social que vous êtes.
Je crois que la première prescription effectivement qu'on doit se donner quand on envisage une opération de construction, c'est de bien cibler effectivement la population que nous allons accueillir dans ces logements-là. Quelle est la première préoccupation aujourd'hui de quelqu'un ou qui construit ou qui cherche un logement? Et je ne parle pas uniquement effectivement de créneau de clientèle HLM, de tout un chacun aujourd'hui. C'est effectivement le poids que représente le chauffage dans son budget. C'est effectivement une démarche qui est conforme au profit de notre clientèle.
Quel est le coût de ce chantier? Et à défaut, est-ce que vous pourriez me donner une idée de ce qu'il aurait été si on n'avait pas choisi la formule BBC?
Sur ce chantier, compte tenu effectivement des performances visées, des équipements installés, on est à un petit 1700 euros le mètre carré habitable. Si j'utilise effectivement la référence habituellement admise qui est la surface au Revre net, on arrive effectivement à 1300-1400. C'est un coût qui est effectivement supérieur à celui auquel on s'exposerait si on faisait effectivement de la construction que l'on va dire, c'est pas un jugement, plus traditionnel. Là, on est quand même aujourd'hui sur des écarts de l'ordre de 12 à 15%. C'est ça le coût, effectivement, aujourd'hui, de la construction BBC, quand on veut, effectivement, à la fois concilier les performances et, comme vous l'avez bien remarqué, concilier, effectivement, la qualité de l'architecture.
Voici un bâtiment BBC qui fait partie du parc Vosgelis. Y en a-t-il d'autres qui ont été précurseurs et y en aura-t-il d'autres?
Notre première opération labellisée BBC, ce qu'on appelle, nous, notre opération laboratoire. En 2007, nous avons livré à Chantraine notre premier bâtiment BBC, notre laboratoire que l'on avait équipé pour mesurer effectivement les consommations d'électricité, les consommations d'eau chaude, pour vérifier effectivement les conditions d'ensoleillement. Et là, on a beaucoup appris. Ce qui fait que j'ai été conduit effectivement, moi, à prendre la décision dès 2009 en disant que toutes les opérations qui seraient étudiées à partir de 2010 seraient effectivement labellisées BBC. Ce qui fait que, et on était un peu plus vite effectivement que prévu, l'année dernière, c'est-à-dire en 2010, nous avons livré 118 logements. Eh bien écoutez, il y en avait 112 qui étaient labellisés BBC. Les 6 restants étaient une opération qui avait été engagée depuis beaucoup plus longtemps et on n'avait pas revu effectivement le programme pour atteindre le label. Il faut savoir effectivement que la réglementation prévue par le Grenelle prévoit que à partir de décembre 2013, tous les bâtiments produits devront être labellisés BBC. Moi je fais du bâtiment depuis longtemps, je suis ingénieur de la construction, je peux vous dire que c'est assez excitant aujourd'hui, on reprend plaisir effectivement, si je peux dire, à travailler sur les projets et j'ai la faiblesse de temps en temps de descendre dans les bureaux d'études et de refaire quelques calculs avec les architectes et avec les ingénieurs. Pour ce que l'on sait aujourd'hui, au-delà d'un bâtiment BBC, il y a le bâtiment passif qui, lui, effectivement, par définition, ne doit pas consommer d'énergie. Et puis encore mieux, il y a le bâtiment positif qui, lui, effectivement, en produit.
C'est dans vos tiroirs?
Ah ben oui, c'est dans nos tiroirs. Je dirais aujourd'hui, on passerait volontiers à un bâtiment passif. On saurait faire. Alors peut-être avec quelques maladresses, comme on a fait du BBC avec maladresse il y a 4 ans. On sait effectivement quel est l'obstacle aujourd'hui, c'est un obstacle de coût encore. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que d'autres que nous, effectivement, fassent des progrès, et ils les font, c'est les industriels qui fabriquent des éléments isolants, qui fabriquent des chaudières, qui fabriquent des pompes à chaleur, qui fabriquent des panneaux solaires. Toute la communauté du bâtiment est mobilisée là-dessus, et puis arrivera le jour, effectivement, où on sera, nous, en position de faire du passif, même du positif, je dirais, dans des conditions effectivement économiques qui crédibilisent la technologie.
Somme toute, la commande passée au fameux Michel Chevalet et sa fameuse maison, c'est pas si loin que ça pour l'habitat social.
Ah, pas du tout. Ça fait partie effectivement des objectifs qui doivent être les nôtres. Et je vous assure que travailler sur des projets comme ça, c'est particulièrement excitant pour ceux qui construisent.
Cocktail FM. Cocktail FM. La radio des Hauts-de-Vosges.
Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing
we will rock you.
Blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place.
We will rock you.
Sing it.
We will rock you.
Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace, somebody better put your bag into your place.
We will rock you.
Sing it.
We will rock you.
Everybody,
we will rock you. We will rock you.
Après l'explication de détail de ce qu'est un bâtiment basse consommation BBC par Michel Chevalet, le point avec le maître d'œuvre du bâtiment construit au Bergon, Jean-François Marchal. Voici son concepteur, l'architecte jérômois François Lozecker.
Ce sont des bâtiments basse énergie qui ont été faits à partir d'une structure bois essentiellement. Le bois étant tout à fait adapté dans nos régions pour favoriser une très haute isolation. Et c'est un bâtiment aussi bioclimatique. Quand on dit bioclimatique, ça veut dire qu'on tire parti de l'orientation et on utilise l'énergie solaire au niveau de capteurs thermiques pour couvrir environ 40 à 45% des besoins en eau chaude sanitaire. Donc ce sont des bâtiments qui sont non seulement très agréables à vivre puisqu'ils sont traversants, ils sont orientés plein sud, et au niveau des dépenses d'énergie, on va être bien en dessous d'un bâtiment normal. Alors donner des proportions, c'est difficile, mais on divise par 6 ou 7, voire 8, les dépenses de chauffage par rapport à une maison qui a été faite il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Au niveau des cibles, ce qu'on appelle les cibles environnementales, il y a différentes cibles. Les plus importantes, c'est déjà la qualité des matériaux. Donc aujourd'hui, dans tous les appels d'offres des entreprises, on demande des produits qui sont certifiés pour être non toxiques. Parce qu'on sait très bien, les dernières études le montrent, que l'air est plus pollué à l'intérieur des logements qu'à l'extérieur. Donc aujourd'hui, ne pas mettre de produits qui dégagent ce qu'on appelle des composés organiques volatiles ou des produits dérivés du benzène sont des choses qui évitent en partie des allergies chez les enfants. Il ne faut pas s'étonner dans nos constructions d'antan qu'on ait des recrudescences d'allergies. La cible principale, c'est ça, donc la qualité matériaux. Après, tout ce qui est thermique, la construction bois, qui, par rapport à l'énergie dont elle a besoin pour se transformer, pour transformer une structure bois par rapport à du béton, on a ce qu'on appelle un bilan carbone qui est bien, bien meilleur. C'est-à-dire que le bois va nécessiter, je veux dire un chiffre en l'air, mais plus de 10 fois moins, mais c'est beaucoup plus d'énergie que du béton ou de la structure métallique.
Reste encore la méthode, la technique de construction. Alors là aussi, je pense qu'il s'agit de chantiers propres qui ne sont pas censés trop déranger le voisinage. Il y a beaucoup de contraintes comme ça.
Pour être très honnête, au niveau de la préfabrication bois, ça s'est très bien passé. Ce type de bâtiment se monte vite et ne génère pas de bruit. Par contre, il y a une particularité locale, c'est le granit que tout le monde connaît. Et nous avons connu 3 à 4 semaines un peu d'enfer pour les voisins, ça il faut le reconnaître.
Et qui n'était pas prévu.
Qui était prévu, mais pas à ce point-là, parce qu'on est tombé sur une veine de roche de granit qui n'était pas pré-fissurée. Et le brise-roche a dû intervenir pendant plus de 3 semaines, pendant toute la journée. Et ça a été vraiment très pénible pour les voisins. On s'en est excusé auprès d'eux, mais on ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas faire de tir de mine pour ne pas déstabiliser les fondations des bâtiments voisins.
C'est un chantier qui est censé être vertueux.
Oui, ce qu'on dit un chantier propre, c'est-à-dire qu'on essaye au niveau des entreprises tout naturellement qu'ils essaient de ramasser leurs déchets, de les trier. Bon, par exemple, les plâtriers, actuellement, il n'y a plus trop de problèmes puisqu'ils valorisent leur chute. Donc, ils ont même intérêt à les ramasser. Les cartons, c'est pareil. Je veux dire, les habitudes qui sont prises. Il reste encore quelques petits défauts inhérents à la culture dans le bâtiment en France. Mais bon, ça va nettement mieux qu'il y a quelques temps.
Au regard de ce bâtiment que vous avez réalisé, qu'est-ce que vous auriez aimé pousser plus loin?
Bon, aujourd'hui, au niveau de l'habitabilité, au niveau de la qualité des logements, je le répète, les logements sociaux vont beaucoup plus loin que la promotion privée. Ça ne plaira peut-être pas à tout le monde de dire ça, mais on a des performances qui ne sont pas atteintes dans la promotion privée ou très difficilement. Ce qu'on pourrait faire ici, on est sur des bâtiments basse énergie, donc dit BBC, c'est la norme qui va s'appliquer à partir de 2012. Ces bâtiments, si la réglementation française évoluait un petit peu différemment, pourraient être des bâtiments qu'on dit passifs ou même à énergie positive. Mais là, il faut, sans rentrer dans le détail, que la réglementation change un petit peu et qu'il y ait un peu moins de pression des lobbying, des fournisseurs d'énergie. Je veux dire, c'est sûr que ça ne peut pas s'adapter du jour au lendemain, mais ce sont des bâtiments que si on les poussait à la passivité ou à la positivité, ce qu'on a pu faire sur Saint-Dié déjà, réduirait encore les charges et surtout ferait que les bâtiments ont de moins en moins de systèmes de chauffage. Donc on va vers des systèmes beaucoup moins, plus économiques et plus durables.
Vous qui êtes Jérômois, vous nous dites bien qu'il est possible de faire des bâtiments qui se passent de systèmes de chauffage dans les Vosges où il fait froid l'hiver.
Pas se passer complètement de systèmes de chauffage, mais déjà avoir des systèmes de ventilation double flux qui récupèrent 92% de l'énergie de l'air vicié, c'est déjà énorme. Ce qui fait qu'en besoin de chauffage, on se retrouve, on compte avec nos logiciels de thermodynamique les apports des occupants. Par exemple, un T2 avec 4 personnes qui font un repas un soir, il n'a plus besoin de système de chauffage, même s'il fait moins 10. C'est-à-dire que les apports internes des appareils, de la douche, de la cuisine, sont comptabilisés. Et le chauffage devient quelque chose de très, très, très marginal. Sur les dépenses globales d'énergie, le chauffage ne représentera même pas 10% de l'énergie dépensée, alors que l'électricité, la télévision, si on laisse la télé en veille, un sèche-linge électrique, vont exploser le compteur. Donc il y a aussi à changer les comportements et à prendre soin de mettre les appareils, de les éteindre le soir et même de mettre des systèmes de délestage ou comme ici, de se passer d'un sèche-linge électrique puisqu'on a mis à l'extérieur des espaces qui permettent de sécher le linge à l'abri du côté sud.
Vous concevez depuis longtemps des bâtiments à caractère, on va dire, écologique. Comment vous y êtes-vous intéressé?
Bon, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on a pu faire un bâtiment sur Saint-Dié avec un bailleur social local qui s'est révélé du fait qu'il était construit en bois naturellement beaucoup plus performant. Et là, à l'époque, c'était plus les préoccupations acoustiques qui ont fait qu'on a renforcé l'isolation. On s'est retrouvé avec un bâtiment thermiquement très, très au point. Pourquoi on est venu au bois? Parce que j'avais suivi une formation particulière au niveau de l'école d'architecture de Nancy et que se trouvant dans le massif vosgien, bon, c'était naturel de pousser ça. Et depuis quelques années, avec les problèmes d'énergie, les coûts de transformation, les bilans CO2, la recherche d'économie en énergie grise, les constructions bois basse énergie ou passives deviennent, je dirais, quelque chose de naturel. C'est-à-dire, ça donne un autre sens, un nouveau sens à notre profession aussi. Je ne suis pas un cas isolé. toute la profession, et notamment au niveau de la Lorraine ou de l'Alsace, pousse dans ce sens-là.
Le premier bâtiment à Saint-Dié auquel François Lezecker faisait référence s'appelle les Héliades et avait été commandé par le toit vosgien. Enfin, sachez aussi que le site internet de Michel Chevalet pour les maisons de demain est toujours ouvert et toujours mis à jour. Vous le trouverez très facilement sur votre moteur de recherche. Voici au terme de ce magazine. Au sommaire, la semaine prochaine, il sera encore question de construction et d'architecture, si l'on veut, puisque nous parlerons d'un chantier titanesque, celui de la construction d'un coaster, un grand 8 au petit parc familial qui grandit de Frépertuis City. Nous vivrons quelques étapes de ce chantier, l'histoire du parc et bien sûr l'inauguration du nouveau manège. Pour l'instant, je vous souhaite de vivre un excellent week-end au soleil. D'ici quelques instants, les informations nationales et internationales. La prochaine édition des informations locales présentée par Jean-Yves Didier, c'est à 12h30. Bonne journée.